Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel du site des Cahiers du Catch, où chaque semaine on résume et on analyse l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Opus 38 de Catch Up. Et avec moi cette semaine pour analyser le Monday Night Raw du 16 janvier 2017, l'éminent Amiral Armbar. Amiral, comment vas-tu?
Très bien, salut Ringside, salut tout le monde et welcome à Monday Night Raw.
Monday Night Raw. Donc, hier, Monday Night Raw qui se passait à Little Rock, qui est la capitale de l'Arkansas. Alors après un petit hommage à Martin Luther King et puis un petit hommage à Superfly Jimmy Snuka qui nous a quittés là récemment ce week-end. Pour une fois, c'est pas le couple Mick Foley et Stephanie McMahon qui débute le show, mais bien le Big Dog Roman Reigns qui arrive au ring. Et qui nous explique qu'il ne va pas pleurnicher sur son sort hein, suite à sa défaite de la semaine dernière, puisqu'on vous rappelle que la semaine dernière, il a perdu son titre US face à la team.
Enfin!
Enfin! T'as envie de dire. Il aura fallu pas moins que Chris Jericho et le champion de l'univers Kevin Owens unis dans un match handicap pour faire tomber Roman Reigns et lui faire perdre sa ceinture. Donc voilà, mais il nous explique que il va pas pleurnicher là-dessus, hein, il va pas se plaindre, parce que Royal Rumble, il va affronter Kevin Owens, et Royal Rumble, c'est Kevin Owens qui va pleurnicher sur son propre sort une fois qu'il aura perdu son titre de champion de l'univers. Car Y2J, le comparse de Kevin Owens, ne pourra pas l'aider puisqu'il sera enfermé dans cette cage aux requins, qui sera suspendu en haut du ring, hein, si on a bien tout compris. Là-dessus, évidemment, la team Jericho arrive. Chris Jericho, Kevin Owens, donc, chacun avec sa ceinture respective. Parce que c'est Chris Jericho, donc le champion US, hein, désormais. Donc, ils arrivent au ring. Et donc, ils expliquent que, comme d'habitude, hein, ils nous racontent le plan de Chris Jericho, hein, c'est-à-dire qu'il compte gagner le Royal Rumble. Et qu'ensuite, il ira au main event affronter son meilleur ami Kevin Owens. Parce que Kevin Owens va forcément conserver sa ceinture face à Roman Reigns. Et donc c'est gagnant-gagnant, hein, parce que même si à WrestleMania, Chris Jericho gagne, ou que ce soit Kevin Owens, c'est pas grave, ils sont quand même tous les deux champions à la fois US et de l'univers. Là-dessus, invité surprise Paul Heyman qui débarque. Donc il nous explique que malgré ce qui a été annoncé, Brock Lesnar ne sera pas là. Donc là le public est pas très content et il nous sort donc son refrain habituel sur Brock Lesnar qui va venir au Rumble, qui va comme d'habitude manger, dormir, éliminer, etc. Et Roman Reigns lui répond que en ce moment là Brock Lesnar peut-être qu'il dort ou peut-être qu'il est en train de manger, mais en tout cas il est pas là pour accompagner le pauvre Paul Heyman. Et là-dessus, à la surprise générale, voilà Seth Rollins qui débarque. Lui, il n'a pas grand-chose à raconter à part qu'il va gagner le Rumble. Mais c'est pas grave hein, s'il n'a pas grand-chose à raconter, puisqu'il y a Braun Strowman qui débarque ensuite. Qui lui va même rien dire du tout. Et à la surprise générale, on a encore un invité. C'est finalement Brock Lesnar qui débarque. Et oui, contrairement à ce qu'a annoncé Paul Heyman, il est bien là, Brock Lesnar. Là voilà tout ce beau monde sur le ring, parce que ça commence à faire du monde. On se toise de part et d'autre, et c'est finalement, encore une fois la surprise générale, c'est finalement un Sami Zayn sorti de nulle part qui lance la baston générale, le coup d'envoi pour la baston générale en se jetant sur Braun Strowman. Et donc là, ça se fight dans tous les sens, Lesnar fait le ménage. On a notamment à un moment donné un face-à-face assez original entre Sami Zayn et Brock Lesnar, avant que Brock Lesnar assène un German suplex à Sami Zayn. On a à un moment donné donc Braun Strowman hein, qui se mange quand même plusieurs coups méchants hein, de la part de ses adversaires, hein, c'est-à-dire un enchaînement de high knee de la part de Rollins, un Superman punch de Roman Reigns et un hell of a kick de Sami Zayn. Mais c'est bien Lesnar qui finit quand même par faire le ménage. Même si Roman Reigns réussit à placer quelques Superman Punch, Lesnar a réussi à le coincer dans son F5. Et donc, bah, ça se termine un peu sur Brock Lesnar, hein, qui est dominant, qui fait face à Braun Strowman qui s'est relevé. On se regarde les yeux dans les yeux, mais Braun Strowman refuse le combat. Il préfère se retirer. Voilà, ça se termine un peu sur tout ce beau monde qui se retire du ring. Lesnar assez victorieux, Kevin Owens un peu invisible. Voilà, ça a tapé dur dans cette séquence d'intro. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon amiral?
Alors, juste une petite rectification, si tu me permets, mon cher Inside. Donc, il y a Eman qui débarque avant KO et Jericho, en fait. Hein. Donc, c'est Roman Reigns qui débute bien le segment et Paul Heyman qui débarque et ensuite Jericho et Owens. Voilà, petit détail, mais pour remettre les points sur les i. Bah, écoute, c'est le Royal Rumble qui arrive. Donc, Royal Rumble, gros match à plein. Donc, forcément, les segments sur les storylines principales impliquent beaucoup, beaucoup de monde. C'est rapidement le bordel. Voilà, moi, je note que Reigns, même s'il a perdu sa ceinture la semaine dernière, eh bien, il semble complètement s'en foutre. Hein.
Oui.
Hein, il le dit, je vais pas pleurer. Moi, j'ai fait partie du Shield. Alors le fait d'être dominé à plusieurs, bon, je vais pas râler parce qu'on l'a fait pendant des plombes avec Ambrose et Rollins. Mais alors la ceinture des États-Unis, je l'ai plus, j'en parle même pas, c'est pas grave. Il y a même pas un rematch qu'il veut réclamer, il veut même pas la récupérer, on a l'impression. Donc ça un peu bizarre, mais bon, ça fait confirmer le fait que bah, il a porté juste pour lui mettre une ceinture de championnat autour de pas de la taille mais sur l'épaule. Donc tant mieux que il est plus, ça c'est clair. Bon ben bah, ce que je note surtout, c'est qu'il tease un petit peu depuis quelques Raw avec des affrontements mettant face à face des gens dans tout ce beau monde. On avait eu Reigns qui était en face de Goldberg il y a quelques semaines. Là on a effectivement aussi Strowman en face de Brock Lesnar. Comme tu l'as dit, on nous met Sami Zayn dans tout ça, ce que je trouve plutôt bien parce que Zayn manquait clairement d'exposition ces derniers temps. Donc, ok. Segment assez classique, on va dire, mais qui lance un show de façon plutôt pas mal. On se dit, il va se passer des trucs, tout ce beau foutoir, comment ça va s'organiser. Bref, curieux pour la suite.
Ouais, et puis ça nous change un peu des blablas habituels qu'on a en début de show qui durent des plombes. Et j'étais bien content aussi de voir effectivement Sami Zayn s'incruster là dans le main event. Il tient bien à sa place, hein, du moins dans le segment là déjà.
Ouais.
Voilà, un beau petit bordel organisé. Ça donne le ton. Et donc on apprend que ben, en main event, hein, de la soirée, on aura un affrontement 3 contre 3. Donc les gentils d'un côté, Sami Zayn, Seth Rollins et Roman Reigns, face à Kevin Owens, Chris Jericho et Braun Strowman. Brock Lesnar a pris son chèque et est rentré, hein, évidemment.
Bien
Pas.
sûr, alors. À noter, donc du coup, c'est la première réapparition de Lesnar suite à sa défaite fulgurante à Survivor Series hein, face à donc Goldberg. Mais malgré qu'il ait perdu aussi rapidement en quelques secondes, bah, il apparaît toujours aussi fort. Donc il n'est pas question de le faire paraître faible suite à cette défaite, mais toujours comme un monstre, comme une bête qu'il est. Sauf que Goldberg, bah, forcément, était au-dessus lors de ce match qui était presque un non-match. Mais voilà, Brock Lesnar est encore en haut de la chaîne alimentaire, la WWE.
Je pense qu'on le reverra plus avant le Rumble. Sachant qu'il fait le Rumble et WrestleMania, je crois seulement Lesnar. Il fait pas ce qu'il y a entre. Donc, même si
C'est ce qui est un
Goldberg a un match à Fastlane, c'est pas le cas de Brock Lesnar.
Ouais.
Donc, on verra bien comment tout ça se goupille pour eux. En tout cas, voilà, un peu punchy pour commencer. Moins punchy, ce qui suit. La team Enzo et Big Cass qui affrontent Rusev et Jinder Mahal. Donc voilà, on va régler les comptes. Hein, ça fait quelques semaines qu'ils sont en rivalité. C'est deux équipes, on peut dire. Donc tout ça suite à cette histoire avec Lana hein, où Enzo s'était retrouvé à se faire tabasser dans un hôtel après avoir été piégé par la belle Lana. Et puis après, il s'était fait tabasser à d'autres endroits. Voilà, donc c'est un match absolument passionnant. Donc Enzo, comme d'habitude, hein, qui fait le punching ball. Big Cass qui fait le hot tag. Jinder Mahal qui fait pas grand-chose. Rusev qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et ça se termine sur une victoire de Enzo et Big Cass avec le Boom Shakalanka. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette fin de rivalité?
Ouais, alors fin, je sais pas, hein, même si c'est les faces qui gagnent, on pourrait dire ça. Alors déjà, le premier truc à dire, c'est que Lana est somptueuse dans sa robe rouge. Je trouvais qu'elle était
C'est vrai
vraiment,
qu'elle avait
vraiment
du chien.
superbe. Ouais, carrément, elle avait du mordant. Et moi, le match, il m'a pas mal plu. Alors déjà, c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent, puisque, bah, comme tu l'as dit, Enzo, il s'était fait tabasser à plusieurs reprises, donc il était blessé, il avait une blessure au genou pour de vrai, et donc il était en fauteuil roulant, pendant quelques semaines. Et donc c'est la première fois que les quatre hommes, s'affrontaient. Et j'ai trouvé ça pas mal, je trouvais ça, alors, court, mais ultra rythmé. Ça, le match avait un rythme vraiment très, très rapide. Compte tenu surtout ben, des gros gabarits qu'on a dans le match, hein, puisqu'on a notamment Bikas et Rusev qui vont plutôt généralement catcher sur un dynamisme assez lent. Là, je trouvais que c'était un peu à 300 à l'heure, donc ils ont bien exploité le petit timing qui leur a été donné pour faire un truc où on s'ennuyait pas, le public était bien à fond. Ça reste assez anecdotique, on est sur une feuille de middle card. Mais au moins, voilà, c'était un premier match. Je trouvais un bon opener en termes de match de catch. Rien d'exceptionnel, mais encore, j'ai été étonné par le rythme assez rapide, assez vif de la rencontre. Donc, je ne sais pas si ça va donner suite à quelque chose. Et puis peut-être que ça va être un point de nouvelle chance pour Jinder Mahal, hein, qui avait été dans les tréfonds des oubliettes du roster pendant très longtemps, et là, qui depuis quelques semaines, avec cette réalité, revient sur le devant de la scène, du moins revient dans Raw, avec, donc, comme on l'a déjà dit, une forme physique assez impressionnante, très affûtée. Le gender,
Un peu
donc
trop même,
ouais,
mais
on se dit qu'il a fait un entraînement vraiment balèze, ça c'est clair. Donc là, moi je trouvais le match plutôt agréable.
Bah, en tout cas, il y avait une sacrée pop du public, hein. Le public était vachement dedans. On voit quand même qu'il y a une certaine grosse popularité pour Enzo et Bikas et qu'il fonctionne vachement bien en babyface.
Oui, surtout mise en face de deux heels qui sont bulgares et indiens,
Voilà.
donc pas américains. Et on sait très bien que ça, le public WWE, ça a tendance à attiser leur patriotisme, qui fait que bah, les faces en face ne sont que plus applaudis. Donc, ok, ça marche.
Ok, Namir Alain Barre satisfait pour ce premier match.
Ouais, bah, j'en attendais pas grand-chose,
En
hein, faut
même
dire ce
temps,
qui
hein,
est.
quand on n'en attend rien.
C'est ça, on est plutôt bien surpris, donc à voir si ça continue.
Ouais, voilà, bon, genre, je me demande
Au
s'ils vont
moins
faire
ça
une
les
suite.
occupe.
Voilà, c'est ça.
Ouais, au moins ça les
Du temps
occupe.
d'antenne, ils travaillent un peu leur selling. Voilà, bon, bah, on se demande, hein, si c'est bien la fin de cette rivalité ou pas. On en saura plus la semaine prochaine. On va passer au cruiserweight, parce que c'est l'heure des
Oui.
cruiserweight. Alors, je vais tout faire
On
d'un
va
coup, hein.
décorer. Ouais, on va décorer le studio d'enregistrement en mauve, comme ils font
Voilà,
avec le
c'est
ring,
ça, allez
pour
hop.
parler des cruisers.
C'est parti. Bon, les matchs, ils durent moins de 4 minutes, je crois, chacun, donc ça va être assez rapide. Lince Dorado abandonne face à Daivari. Jack Gallagher est au commentaire de ce match. Et on apprend qu'ils vont avoir un affrontement. Donc je pense que c'est un I quit match. Mais ils appellent ça autrement.
Forfait match,
Ouais,
I
I
forfeit.
forfeit match, voilà.
Voilà, c'est je déclare forfait. Et
Exactement.
c'est exactement ce que dit le commentateur, je crois que c'est Corey Graves, qui dit bah c'est basiquement un I quit match, donc mais où il faut pas dire j'abandonne, mais je déclare forfait. Donc je pense que c'est pour surfer sur la gimmick un peu gentleman de Gallagher et avec son phrasé un peu particulier. Donc bon, c'est moi c'est un I quit match, hein, clairement.
Voilà. Alors un match très court, hein, mais bon, avec deux trois belles performances de Lince Dorado qui saute un peu partout. Daivari, j'ai toujours pas compris pourquoi il l'avait signé, mais on aura sûrement une explication un jour. On a ensuite Rich Swann qui est censé affronter Tony Nese, mais évidemment il y a intervention de Neville, puisque Neville en veut à Rich Swann, hein, qui est le champion cruiserweight. Et donc il vient et il passe à tabac violemment Rich Swann, comme il sait si bien le faire. Alors, Rich Swann réussit à se défendre, il réussit à reprendre l'avantage, mais Tony Nese arrive par derrière et il assomme le champion. Donc là, il y a une petite altercation également entre Tony Nese et Neville, parce que Tony Nese essaye de prendre un peu le spot de Neville en frappant le pauvre Rich Swann qui est à terre, mais bah, il n'est pas partageur, hein, Neville, donc bah, il finit par prendre Tony Nese et puis l'éjecter du ring, hein, nonchalamment.
Bah oui, c'est lui le roi,
C'est lui
le
le
seul roi
roi.
des Creusers.
Ouais. Et alors on se demande pourquoi il est venu. On aura une explication dans une interview backstage un peu plus tard, où il explique que quand on lui pose la question, hein, pourquoi est-ce qu'il est intervenu ce soir, il demande à l'intervieweur si c'est pas un peu un hypocrite, hein, parce que il a bien vu ce qui s'est passé pour Neville la semaine dernière, il s'était fait attaquer aussi par Rich One, donc tout simplement il vient se venger. Voilà, et puis il explique que tous les Américains sont des hypocrites, hein, de toute façon. Voilà, il construit son personnage de heel suprême des Cruisers. Fonctionne plutôt bien ce Neville Evil. Ça te plaît, toi?
Oui, bah disons que ça redonne une dynamique. Ils ont pas réussi à en faire quelque chose d'intéressant en tant que face pendant un petit temps quand même, alors que bon, il avait été champion NXT pendant un long moment. Donc pourquoi pas lui redonner une dynamique en faisant un heel, sachant qu'il est quand même costaud. Alors niveau poids, je sais pas quel est son poids, mais il est quand même dans les poids lourds, on va dire entre guillemets des cruisers, hein, puisqu'il fait, si je vous regarde là, 93 kilos. Donc
Voilà.
clairement, il est bien musclé. Et je pense qu'il a les boules de pas avoir pu briller lors du tournoi des Cruiserweights il y a quelques mois, et non plus dans le tournoi des United Kingdom. Donc du coup, voilà, en faire un mec vachement vénère qui dit « Ok, bah, les Cruiserweights, je vais tout dominer. » Et soutenu par le booking pour l'instant, ouais, ça redonne un second souffle. Hein. On va voir si ça, combien de temps ça va tenir, mais c'est plutôt pas mal parce qu'il a du talent, le mec. Hein.
Ouais,
Vraiment, il a beaucoup de
c'est
talent.
vrai. Faut...
Il est vachement divertissant, son côté voltigeur, mais je sais que ça intéresse des gens qui sont même pas fans de catch. Il y a Neville à l'écran, t'as des gens qui s'intéressent à ce qui se passe, quoi. Sans savoir du tout les histoires, juste parce que bah, le mec, il est divertissant à regarder.
Ouais, faut pas qu'il tarde à prendre la ceinture et puis dominer tout ça. Il y a encore des gros noms, des grands noms qui doivent arriver chez les Cruiserweight, donc après ça peut donner des belles affiches quand même un peu plus intéressantes que d'avoir Rich One contre Daivari ou des trucs comme ça. Donc effectivement, ouais, plutôt une bonne utilisation de Neville qui a fait un joli match justement ce week-end là au tournoi des United Kingdom Championship où il a affronté Tommy End qui faisait sa première apparition dans le cadre de la WWE. C'était un match assez sympa. On va finir avec les Cruisers. Avec ce qu'il y a de mieux, Cédric Alexander qui affronte Brian Kendrick. Donc il y a toute une histoire avec Alicia Fox, hein, les amours de Cédric Alexander, un triangle amoureux avec Noam Dar, qui, bon, on le voit, Noam Dar dans les coulisses en train de regarder le match sur la télé. Donc ils étaient fâchés, Cédric Alexander et Alicia Fox, parce qu'elle lui a fait perdre un match à 205 Live. Mais elle vient pendant le match, elle interfère pendant le match. Cédric Alexander finit par gagner quand même, mais il veut pas se réconcilier avec Alicia Fox, il évite l'étreinte finale. Et Alicia Fox pète un câble, hein, parce qu'apparemment elle est complètement tarée. On aura un exemple un peu plus tard, puisqu'elle s'est interviewée aussi dans les coulisses, et on voit bien que c'est une hystérique.
Ouais, c'est pas la première fois qu'il nous présente ce visage-là d'Alicia
C'est
Fox, hein.
vrai.
D'ailleurs, le seul gimmick qu'elle a depuis X années, on
C'est
l'a vu
ça.
plus souvent piquer des crises que faire des matchs.
Exactement.
Voilà, moi, cet angle-là, cette storyline, m'emmerde profondément.
Ouais.
J'ai envie de dire les histoires de couples triangles amoureux qui sont montés en 2 semaines et ils se séparent, voilà, 2 semaines après le moment où on les présente en tant que couple. Je trouve que ça marche pas, c'est super, super, su vraiment superficiel. Ça ne repose sur rien. Autant Neville, voilà, qui part à la conquête du titre contre Rich Swann, ça a un peu de saveur. La rivalité entre Daivari et Gallagher, c'est fun et c'est un peu original par le personnage de Gallagher. C'est pourquoi pas, ça apporte un truc par rapport au reste du show. Par contre, là, vraiment, Cédric Alexander, Alicia Fox et Noam Dar, à part les interviews de Noam Dar avec son accident, son accent, pardon, Alicia Fox, c'est le seul moment peut-être intéressant ce truc-là. Donc, ouais, pas convaincu du tout par ce qu'ils en font.
Là, c'est pour éduquer les jeunes un petit peu, c'est-à-dire que si vous voyez que votre copine est hystérique, sauvez-vous après l'avoir sautée.
Be smart, be safe,
Voilà,
comme on dit, c'est ça.
exactement. Alors, on apprend que. On a fini avec les cruisers, hein. Et on apprend que Kurt Angle est le premier intronisé au Hall of Fame. Donc le légendaire Kurt Angle, le champion olympique qui a tout gagné à la WWE, qui avait quitté la fédération il y a quelques années maintenant,
Ouais, avant d'aller à la
avant d'aller
TNA,
à
où
la
il avait été
TNA.
champion à TNA, ouais.
Voilà, tout gagné à la TNA. Quitté la TNA il y a peu, il a fait encore quelques fédérations indépendantes, là, quelques gros matchs. Et voilà, il sera le premier intronisé au Hall of Fame. On est bien content parce qu'on adore Kurt Angle. Je pense que tu l'aimes bien
Ouais.
aussi, non? T'avais...
Oui, bah non, Kurt Angle j'aime bien parce que c'est le seul mec qui a réussi à faire taper John Cena dans une prise de soumission, son fameux ankle lock. Donc peut-être c'est la seule fois que John Cena a tapé, donc a abandonné un match, c'était contre Kurt Angle. Donc rien que pour ça, il a mon respect. Non, Kurt Angle, ça faisait partie effectivement des gros noms des années 90, qui a eu des bons matchs, qui a eu des gimmicks tantôt vraiment dominants parce que voilà, ils ont vraiment capitalisé sur le fait qu'il est médaillé olympique en lutte. Donc il a été assez redoutable. Il a eu des gimmicks complètement différents où c'était un joyeux abruti complètement con, donc sur un segment vachement plus comique qui était assez fun. Hein. Et puis ça faisait plaisir aussi de voir quand ils ont balancé la vidéo au sujet d'Angle que le public connaissait encore son fameux chant you suck calé en rythme sur sa musique, ce qui n'était pas évident parce que ça date quand même de pas mal d'années. Donc ça montre que même s'il est plus dans la WWE depuis longtemps, sa renommée est encore toujours dans les esprits, sachant qu'on en parlait depuis quelques temps, depuis qu'il avait quitté la TNA, d'un possible retour à la WWE, notamment en le mettant en plus ou moins mentor ou manager des American Alpha, puisque leur style de catch, notamment de fringues, hein, de tenue, sont assez similaires. Donc je sais pas si le fait de le mettre dans le Hall of Fame va le ramener dans le giron de la WWE dans un show, même sans forcément catcher, mais en apparaissant comme un personnage, un manager, pourquoi pas. Mais bon, ça peut être la première étape. Hein. Sachant, comme tu l'as dit, il a déjà fait il a fait des matchs il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'a pas pris sa retraite complète. Ce qui est assez rare par contre, hein, que la WWE introduise au Hall of Fame des gens qui potentiellement catchent encore. Généralement, c'est plus, ok, il y a la retraite qui est actée, et de fait, derrière, on te met au Hall of Fame. Donc là, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais bon, c'est fun de revoir certaines vidéos des anciens matchs, des anciennes apparitions de Kurt Angle, puisqu'il a marqué quand même de son Uncle Lock et autres suplex la WWE fut un temps.
C'est ça. Ouais, il est. Ben, il est temps qu'il ait un contrat de légende, hein, il est mûr pour ça, hein, Kurt Angle. Sauf ça
Ouais.
fera très bien de le voir traîner comme ça dans les coulisses, un job de manager, un truc de pourquoi pas même le general manager ou des choses comme ça, hein, ça, tout ça, il peut le faire. Mais catcher, ça va être difficile parce que y a peu de chances qu'il passe les tests médicaux quand même, mais bon, c'est pas de l'ordre de l'impossible non plus.
Ouais, c'est ça, on verra bien.
Voilà, donc un grand monsieur du catch qui entre au Hall of Fame cette année. Alors, on va poursuivre, on va arriver au Fi tout doucement avec un segment original, puisque ça se passe. C'est un flashback sur la journée, une vidéo qui se passe pendant les entraînements en fait, où on voit Sasha Banks qui est en train de s'entraîner devant les coachs de la WWE dans le stade vide. Et voilà, Tipa que Nia Jax débarque. Elle l'attrape, elle la jette au sol, elle lui fait une descente de la cuisse mortifère, une clé de genou extrêmement violente, et elle s'en va. Donc voilà, du coup Sasha Banks s'est blessée de nouveau. Voilà,
Ouais, sachant qu'elle était en train de passer supposément des tests physiques hein, devant les médecins de la
c'est
WWE pour
ça.
valider que sa blessure était guérie, sa blessure au genou, et qu'elle pouvait revenir sur le ring. Donc ouais, comme tu dis, c'est original. J'aime bien les segments comme ça. Je préfère largement un truc comme ça, une sorte de vidéo un peu volée, pas volée, mais genre qui n'était pas prévu dans le scénario d'être diffusé le soir, hein, plutôt que voir Banks qui revient dans le ring le soir à Raw, fasse une promo pas terrible pour dire oh ça y est je suis guéri et Nia Jax qui arrive pour la poutrer. Non, ça je trouve que c'est plutôt intelligemment fait et ils ont raison Raw depuis quelques mois de mettre des segments comme ça qui se passent pas forcément dans l'arène en live mais les enregistrements, ça permet un peu aussi de garnir l'image un peu série télé hein, et feuilleton qu'à Raw plus que SmackDown hein. Donc moi j'aime bien.
Ouais, bah ils ont du temps pour faire des petits tests comme ça, des petites innovations. Puis oui, c'est sûr qu'au final, même si c'est peut-être pas parfait, ça fonctionne peut-être mieux qu'un segment avec Sacha Banks au micro, vu que c'est toujours un
Là,
petit peu
au moins,
triste, hein.
ça le mérite de durer 30 secondes. En
C'est
30
ça.
secondes, ça place le truc, elle était quasiment guérie, a passé les derniers tests, et là, Nia Jax qui revient pour en mettre une couche. Voilà, parfait. Et qui après enterre le truc dans sa promo, en interview backstage, où elle dit, bon, voilà, bah, elle a cassé la bosse, et la fille dont il faut parler, c'est pas Sasha Banks, mais c'est bien Nia Jax. Donc non, ça, en peu de temps, ils ont réussi à continuer à faire avancer un tout petit peu, mais à rappeler en tout cas qu'il y a cette feud en préparation entre Nia Jax et Sasha Banks. Donc plutôt efficace.
Ouais, ça fonctionne toujours plutôt bien chez les filles, c'est toujours plutôt bien travaillé. Alors un peu plus casse-gueule le segment suivant des filles, un peu plus tard dans
Oh
l'émission.
oui.
C'est Charlotte qui vient sur le ring et qui nous explique si les fans sont tellement passionnés de son adversaire du moment, Bayley. C'est parce que Bayley, c'est aussi une fan lambda en fait, hein, comme bah, les fans de WWE Universe. Alors elle nous sort des photos d'enfance de Bayley. On la voit avec des catcheurs, on voit Bret Hart notamment. Elle nous sort aussi des poèmes qu'a écrit Bayley quand elle était jeune, des professions de foi un petit peu. Tout ça est très très long. Donc le public est en bout de course quand finalement Bayley finit quand même par apparaître. Donc il n'y a pas de confrontation physique, c'est simplement Bayley qui va reprendre un peu le micro et puis bah, nous expliquer qu'elle n'a pas honte de ses poèmes qu'elle a écrits quand elle était jeune, elle n'a pas honte de sa passion pour la WWE. Elle va sortir quand même trois poèmes, très cuculapraline, hein, les roses sont rouges, les violettes sont bleues, je vais te battre à Royal Rumble. Et donc voilà, ça se termine sur cette séquence où on a Charlotte qui est prise dans les ballons un petit peu de Sacha et qui est un peu perplexe parce qu'elle n'a pas réussi à déstabiliser Bayley. Ça t'a plu ce passage ou pas, mon bon amiral?
À savoir que les poèmes de Bayley, donc du coup, comme tu l'as cité, en anglais, ça rime bien évidemment, hein, pour que nos auditeurs comprennent.
Pourquoi ils
Voilà, elle a
sont
fait
pas
trois.
bien mes traductions?
Si, elles sont très bien, mais par contre, effectivement, en français, ça rime pas, alors qu'en anglais, ça rimait.
Ouais,
Alors,
ça a
du coup,
rimé
oui.
vite fait hein, en anglais.
Oh, si. Ça marche, hein. Mais donc, ouais, comme tu l'as dit, plus casse-gueule, c'est clair. Mais en même temps, je trouve que ça marchait bizarrement parce que donc le segment, où je, le parti, le premier parti où Charlotte démonte Bayley, montre les photos, etc. Il faut savoir que c'est des vraies photos, que c'est des vraies lettres profession de foi, comme tu dis, que Bayley a envoyées quand t'es gamine, hein, parce que c'est vraiment une fan hardcore. Hein, la WWE, on l'avait déjà vu à NXT, ils en étaient servis pour construire son personnage. Donc pourquoi pas réutiliser ce qui existe déjà et que beaucoup de spectateurs de Raw n'ont pas vu, hein, qui regardent pas NXT. Donc pourquoi pas, ça existe et ça marche bien. Et elle prend le temps, Charlotte, mais c'est vraiment pour pouvoir montrer qu'elle est impitoyable envers Bayley, cette fan qui a réalisé son rêve réellement de devenir star de la WWE, pour vraiment mettre le public à la huée et à réclamer, à crier We want Bayley. Donc vraiment, quand Bayley arrive, il y a toute l'arène qui crie, qui veut Bayley. Donc ça fait une arrivée de Bayley qui marche. Et quand Bayley au micro justement dit, ben voilà, moi j'ai pas honte de tout ça, j'ai pas honte de ma passion, de mon amour à WWE. Mon père, il m'achetait les places à chaque fois qu'il y a un show qui passait en Californie, là où on habitait, même si on n'avait pas forcément la thune. Eh ben je trouve que c'est le même refrain que Sasha Banks a essayé pendant des mois de nous vendre. Sauf que là, ça marche. On a l'impression que Bayley est beaucoup plus sincère. Ça colle à son personnage, effectivement. Parce que Bayley, c'est une nana presque lambda. Alors, elle n'est pas lambda, bien entendu, parce que quelqu'un de lambda peut pas faire ce qu'elle fait dans le ring, hein, évidemment. Mais elle est un personnage accessible au public, ce que n'a pas Banks. Banks, son gimmick, c'est « je suis la boss ». Donc forcément, tu peux pas t'identifier ou te connecter à quelqu'un qui se dit « je suis le boss ». Alors que le public américain, ou les petites filles dans le public ou autres, bah Bayley, ils peuvent de suite plus se raccrocher. Donc ce discours-là, marche 100 fois mieux pour moi dans la bouche de Bailey que dans la bouche de Sasha Banks. Ce qui fait que cette positionnement entre Charlotte, la fille héritière de Ric Flair, une athlète hors pair qui gagnait plein de compétitions et qui est la reine des pay-per-view, versus Bailey, la petite fille qui a grandi avec ce rêve WWE qu'il a accompli, ben là, je trouve que ce montage-là marche sur cette rivalité alors qu'il était pas très bon sur Banks et Charlotte. Alors que bien sûr, hein, les matchs Banks-Charlotte sont formidables, on ne dit pas ça, mais la construction laisse à désirer. Et là, ça part plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment plus efficace avec Bailey finalement.
Ben Charlotte, elle maîtrise quand même au micro, hein, de toute façon. Donc ça, c'est vrai, ouais, comme tu disais, hein, au bout du bout, le public était là à demander Bailey à cor et à cri. Et Bailey, quand elle est arrivée, moi j'ai vu Hulk Hogan, quoi. Hein, sa démarche quand elle est arrivée, la pop que ça a sorti, voilà, c'est le babyface dans toute sa splendeur.
Ouais.
Et pourtant c'est pas gagné parce que quand même c'était long quoi. Là il y a un petit problème de timing quand même sur ce type de
Ouais,
sur ce type
peut-être.
de promo. Ils auraient pu raccourcir un peu je pense quand même, mais elles s'en sortent bien quand même
Ouais,
malgré
mais
l'obstacle quoi.
ils attendaient, je pense, que le public soit à point, que le public soit chauffé, qu'il boue vraiment de détestation Charlotte, et qu'ils attendent que Bailey arrive pour popper, quoi. Et du coup, ça marchait. Je pense qu'il aurait fait plus court, peut-être que l'effet aurait pas été aussi intense. Et puis j'aime bien la fin de voir Charlotte effectivement au milieu de tous les grands huggers gonflables de Bailey. L'image est plutôt sympa, quoi. Donc
Et puis il a toujours ses expressions faciales là, Sacha, non, Charlotte. Vraiment un acting qui est pas mal, je trouve, hein, comparé à des, comment elle s'appelle, les sœurs Bella là ou des choses comme ça. C'est quand même carrément un cran dessus, au-dessus.
Ah oui, elle a une courbe de progression en 2016, c'est impressionnant. Donc,
Voilà, c'est que
qu'elle continue comme
c'est
ça, ouais.
ça, hein. C'est bien de voir qu'elle perd pas. Voilà, ben pour ce qui est des filles, donc ça c'est pareil, hein, la suite au prochain numéro, et notamment au Royal Rumble. Tiens, puisqu'on parle du Royal Rumble, on a eu une petite séquence sur J-Max Sandegan qui nous parle de sa victoire au premier Royal Rumble de l'histoire. Bah oui, il nous explique que bah, il se rendait pas compte à l'époque de ce que c'était, ce que ça allait devenir le Royal Rumble. Hein, pour lui, c'était une journée de travail comme les autres. Il avait gagné en faisant passer le One Man Gang par-dessus la troisième corde. Bon, c'était pas. Ça n'avait pas l'envergure que ça a aujourd'hui, hein, les Royal Rumble. C'était assez dégueulasse, ce premier Royal Rumble de l'histoire. Mais voilà, un beau trophée sur la carrière de J-Max Sandegan.
Ouais, moi je trouve qu'ils vendent plutôt bien le Rumble avec les vidéos. La semaine dernière, on avait eu Edge, enfin voilà, de rappeler un peu des
Ah bah
moments iconiques du
il
Rumble.
faut ça, hein, à chaque fois. Hein.
Ouais. Donc c'est facile, il y en a plein dans l'histoire des Royal Rumble, des moments intéressants qu'on définit une carrière ou qu'on fait popper la salle parce qu'il y a un retour extraordinaire. Donc ouais, non. Moi j'ai envie de, enfin ça construit encore plus l'attente qu'on peut avoir du match qui est déjà en lui-même intéressant parce que c'est une fois par an. Donc voilà, pourquoi pas nous faire un petit peu de cours d'histoire sur le Rumble. C'est pas mal.
Ouais, bah oui, on a 3 heures, alors autant se cacher des petits moments comme ça. Hein.
Exactement.
Petit moment nostalgie. Alors, la suite de tout ça, bah on va aller chez les tag teams. Parce qu'on a quand même un championnat pour les ceintures par équipe. Cesaro et Sheamus défendent leur titre contre Anderson et Gallows. Donc voilà, hein, ils s'étaient affrontés en simple, il y avait une victoire partout. Là, on s'affronte pour du sérieux, pour la ceinture. Bon déroulé de ce qu'ils savent faire les uns contre les autres, hein, avec toujours ces enchaînements entre Cesaro et Sheamus, là où on fait une Finlay et puis un double stomp de Cesaro. Toujours des souplesses super puissantes de Cesaro. Anderson et Gallows, ils sont pas en reste, hein, avec les. Anderson, il est aussi doué pour les souplesses. Gallows, c'est ses coups de poing, ses coups de pied, ses high kicks et tout ça qui fonctionnent vachement bien. Et donc on a une finale controversée puisque Sheamus assomme l'arbitre par inadvertance. Bah, suite à ça, il se fait écarter du ring. Gallows et Anderson réussissent à placer Cesaro dans le Magic Killer. Il est sonné, mais l'arbitre est sonné toujours. Donc il y a un deuxième arbitre, pardon, qui débarque, qui fait le compte de 3. Et c'est la victoire de Anderson et Gallows. Changement de porteur de ceinture. Mais voilà, Tipa, que l'arbitre qui a été assommé se réveille et il annule la décision puisqu'il considère que c'est une disqualification de Sheamus et Cesaro. Donc victoire quand même de Gallows et Anderson, mais pas de changement de titre. Voilà, donc victoire controversée. Qu'est-ce que t'as pensé de ce petit match, petit championnat?
J'aurais tellement aimé que le premier arbitre qui se fait assommer par Sheamus reste dans le coma et que ça finisse comme ça.
Ouais, c'est une belle surprise.
Ça aurait été bon, ouais, parce que faut voir, donc du coup, il y a le Magic Killer, il y a le tombé qui est fait, mais il n'y a pas l'arbitre, donc il y a du temps qui se passe, on est largement au-dessus du compte de 3, le temps que le deuxième arbitre arrive. Donc là, on se dit, ok, l'arbitre va arriver, le nouvel arbitre, il va faire 1, 2, et puis du coup, forcément, va y avoir dégagement, mais non.
Et non.
Donc il y a... Et voilà, on se dit, ok, waouh, surprise, parce que vraiment, je pensais qu'à ce moment-là, Cesaro allait se dégager, mais non, donc vraiment, là, j'étais surpris, j'ai fait, oh ouais, putain, ils font un changement de titre, là, dans un Raw, ok, pourquoi pas, intéressant, original, et surtout pas attendu. Donc voilà, après, je comprends le fait de ne pas vouloir faire perdre des champions récents, surtout ceux qui ont battu le record du New Day comme ça. J'ai ressenti de la frustration qu'ont dû ressentir Gallows et Anderson. Voilà, le match en lui-même, bon, ça passe bien. Hein. Moi, je suis fan absolu des spinebusters d'Anderson. Vu son gabarit, il fait des spinebusters tonitruants sur des mecs bien plus lourds que lui. Donc, je trouve ça assez impressionnant comme move. Donc voilà, la rivalité continue à se construire. Il y avait une victoire partout dans les matchs en simple. Là, le premier match équipe par équipe pour le titre, il y a une victoire des heels, des challengers controversés certes. Donc ça garde l'esprit de ok, ils sont à peu près de forces égales. Hein, donc qu'est-ce que ça va donner lorsqu'ils vont s'affronter, quand ils vont se raffronter, parce qu'il y aura forcément une nouvelle tentative. Voilà. Donc à suivre. Moi, je trouve que si on leur donne du temps à ces deux équipes de faire un match sur un pay-per-view, par exemple, ça peut être un truc qui sera visuellement intéressant et un match qui peut être vraiment cool.
Ah, il faut espérer qu'ils leur donnent du temps. S'ils peuvent
Ouais.
développer
D'ailleurs.
vraiment une vraie histoire dans le ring, ça peut être quelque chose d'assez sensationnel quand même.
Ouais. Et par contre, je crois qu'on a eu la nouvelle aussi que Sheamus et Cesaro seront dans le Royal Rumble match. Si je dis pas de conneries.
C'est possible.
Donc du coup, je me dis, ah merde, du coup, peut-être qu'ils vont pas avoir en plus un match tag team lors du Rumble. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour la suite.
Ouais, seul l'avenir nous le dira. Mais ouais, non, faudrait quand même qu'ils aient un gros match en pay-per-view. Je pense qu'il y a du potentiel quand même hein, dans cette rivalité. Surtout si maintenant ils ont remonté un peu Anderson et Gallows qui sont vraiment montrés comme des mecs dangereux. Ce serait dommage de pas jouer là-dessus.
Oui, et puis surtout vu le résultat du match, quoi. Vu le résultat du match, forcément, ça appelle un rematch entre les deux. Je veux dire,
Ouais,
les Gallows et Anderson ont
voilà.
gagné, donc là, ils sont toujours en ligne en tant que first contender. Ça me paraît vraiment clair.
Ou alors un gros main event de Monday Nitro avant
Peut-être,
le
peut-être.
pour
Ouais.
le show prochaine fois là. Le Go Home Show.
Pourquoi pas, hein. Ouais, on a vu avec les women, avec les femmes, que on pouvait faire des matchs de championnat en main event qui n'étaient pas la ceinture universelle, qui étaient vraiment intéressants avec du temps. Donc peut-être que c'est autour du tag team cette fois-ci.
Ouais,
Ce serait cool, hein.
bah ouais, ce serait sympatoche. Voilà, bah écoute, ça c'est pareil, hein, la suite comme d'habitude au prochain numéro. Donc victoire controversée hein, qu'on vient de voir et autre séquence controversée, un hommage donc à Superfly Jimmy Snuka. On retrace un peu sa carrière, des petits mots doux de sa fille Tamina Snuka. On revoit la séquence où il s'est jeté du haut de la cage au Madison Square Garden. Séquence légendaire qui a inspiré énormément de catcheurs parce que c'était un peu un des premiers high flyers hein, entre guillemets sur le sol américain, Jimmy Superfly Snuka. Bon, le public est un peu mitigé parce qu'il y a quand même ce scandale autour de la mort de son ex-femme, je crois, ou de son ex-compagne, hein, parce que apparemment c'est lui qui l'aurait tué. Mais
Oups.
le procès n'a pas été réouvert, donc il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc la WWE a décidé de lui donner un bel hommage ce soir. Voilà, je sais pas ce qu'on peut en dire de plus.
Bon, rien, je
rien,
pense,
hein.
hein. On va pas rentrer
Ne
dans ces
polémiquons
polémiques
pas.
qui ne nous
Regarde
regardent
pas,
pas.
voilà. Et autre controverse, il y a une certaine Emalina qui devrait arriver prochainement à la
Ah.
WWE, mais je pense que c'est
Ah.
une blague.
On a dit qu'on arrêtait d'en parler tant qu'elle revenait pas pour de
Voilà.
vrai. Ça signifie c'est au moins la 15e semaine, hein. C'est n'importe quoi. Au moins, c'est de raconter un truc de nouveau à chaque fois.
Ouais, mais
Ça
non,
marche
même
bien.
pas.
Mais
Et
non.
même les photos
Ils mettent.
sont les mêmes qu'avant.
C'est déjà vu, c'est
C'est
nul.
nul, 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 nul.
Ça sent vraiment typiquement la hype qu'ils font par des vignettes trop longues et qui tombent à plat.
Ouais, bah
Moi, je
oui,
pense
quand elle va arriver, je suis sûr qu'en fait, y a rien, ils ont rien prévu. Ça va faire un tout.
c'est ça le pire qui me meurtrit, parce que je ne sais pas, on l'a déjà dit, c'est une très bonne catcheuse, Emma. Mais là, ça part vraiment mal, quoi. Je sais pas.
Que je l'ai vu en vrai avant de la revoir à la télé quoi. Tellement ça fait
Oh,
longtemps qu'ils teasent le truc quoi.
dans quel contexte est-ce envoyé? Ah oui,
Ah,
à Paris.
au choix c'était à Strasbourg mais je sais c'était en octobre je crois donc ça
Ouais.
commence à remonter. Hein. Enfin bref, on avait dit qu'on n'en parlait plus. La suite des opérations, Biggie affronte Titus O'Neil. Donc Titus O'Neil veut intégrer le New Day, hein, vous le savez, ça fait quelques semaines. Donc il a affronté Xavier Woods, il a affronté Kofi Kingston, et cette semaine il affronte Biggie. Alors il y a le spot du New Day qui est en jeu.
Pas le spot de Biggie.
C'est que le spot de Biggie ou j'avais compris que c'était le spot du
Ouais,
New
ouais,
Day
ouais.
moi?
Non, parce que bon, Titus O'Neil dit, voilà, vous avez trois spots au Rumble. Ah, vous pouvez bien m'en filer un, quoi. Et donc, du coup, c'était un match entre Biggie et lui. Et bah, si Biggie gagne, il garde son spot. Et si Titus O'Neil gagne, il prend le spot de Biggie. Quel suspense, on se demande vraiment ce qui va se passer.
Non, il avait même rien à. Ce qui était à gagner en contrepartie, c'est que Titus O'Neil arrête de leur envoyer des SMS et d'essayer de se faire passer pour livreur de pizza pour venir chez eux. Voilà, suspense insoutenable. Un match tout en puissance. Une victoire de Biggie, évidemment. Titus O'Neil réussit quand même à placer un. Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié le nom. Dominator, c'est ça? Quand t'exploses un truc par terre. Voilà, à la façon de
Ah,
Bobby
ça change
Lashley, là.
rien.
Dominator, je crois que ça s'appelle, c'est ça.
On va
Mais
dire
de toute
Dominator.
façon, il le fait très mal, donc c'est pas grave.
Bah,
voilà, un petit mot sur cette rivalité qui nous distrait. Ou pas?
trois mots, rien à
Rien à
déclarer.
déclarer.
Voilà.
Ouais, bah oui, hein, de toute façon, ça c'est pour rigoler, c'est pour faire rigoler les enfants. Voilà, bah écoute, on va avancer encore un petit peu plus dans l'émission. Alors, en backstage, hein, tout au long de l'émission, on voit notamment Inconciliabule du côté des gentils, avec Sami Zayn qui est complètement hystérique en quelque sorte. Il est en train de monter un plan de bataille avec Roman Reigns et Seth Rollins, mais il lui parle beaucoup trop rapidement. On comprend pas où il veut en venir. Et les deux préfèrent l'abandonner en expliquant qu'il est encore plus taré que Dean Ambrose.
Ouais, il essaie d'ailleurs. Alors oui, Sami Zayn, apparemment, est sponsorisé par Red Bull maintenant. Il a pris un pack entier avant le segment tellement il parle vite.
Ça.
Et à la fin, il tend le poing pour appeler le signe du Shield avec Rollins et Reigns qui le regardent un peu dépité avant de se casser.
C'est ça.
Donc je trouve ça c'est assez rigolo
C'est assez
comme
rigolo, ouais.
segment.
On pourrait croire que ça peut tuer un peu le momentum de Zen, mais moi je trouve que c'est plutôt rigolo. Ça lui crée un
Ouais,
personnage.
C'est ça, il montre un peu une facette comique qu'il n'avait pas jusqu'à
Ouais,
présent.
ouais,
Donc, papa, c'était encore une fois, c'est un segment très court, donc why not,
ouais. Ouais. C'est pas suffisamment long pour qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, hein, donc ça fonctionne plutôt bien. Et après, on a le conciliabule des méchants, ben, où on apprend que Braun Strowman, il fera quand même ce qu'il veut, malgré les suppliques de Jericho et de Kevin Owens, hein, qui essayent de le driver un peu, hein, de lui demander de blesser ouvertement Roman Reigns et Rollins. Mais Braun Strowman, il explique qu'il va quand même leur casser la gueule, même si. Parce que c'est lui, il a envie de faire ça, quoi. C'est tout. Personne lui donne d'ordre.
il fait ce qu'il
Il
veut,
fait
quand il
ce
veut, à
qu'il.
qui il veut.
Voilà, exactement. Texto, j'ai envie de dire.
Ouais.
Voilà, et puis tout doucement, bah, on arrive au main event. Donc d'un côté, Seth Rollins, Sami Zayn et Roman Reigns qui affrontent Kevin Owens, Chris Jericho et Braun Strowman. Alors du coup, Sami Zayn il s'est incrusté dans le main event, ben, c'est lui qui va faire le gros du match. Hein, il fait l'ouverture, il souffre beaucoup dans le ring hein, face à ses adversaires, même si au début c'est assez serré avec Chris Jericho. Il fait un standing shooting star à un moment donné. Ça se bataille sec. Roman Reigns rentre ainsi dans le match. Il subit les assauts des méchants un peu de tous côtés. Donc c'est assez serré, mais ça se termine par Braun Strowman qui réussit à placer son Running Power Slam sur Sami Zayn qui s'était pourtant bien battu. Donc voilà, le match se termine sur la victoire des méchants. Mais ensuite ça dégénère. Parce que Strowman il en a pas fini, il emmène Sami Zayn sur son épaule pour aller le. On pense qu'il va aller l'exploser sur la table des commentateurs. Là-dessus, Rollins intervient à coup de chaise, carrément. Voilà. Parce que pour battre Braun Strowman, il faut bien quelques coups de chaise. Et Roman Reigns, il en profite pour placer un violent spear. Que je crois qu'il met avec la tête, hein, la tête dans le thorax. Donc Braun Strowman est écarté, et là-dessus c'est la team Jericho qui passe à l'offensive. Donc à coup de chaise, on assomme Rollins, on assomme Zayn, on assomme Roman Reigns, et Kevin Owens finit par s'en prendre à Roman Reigns, et c'est lui qui va exploser le beau Roman à travers la table des commentateurs. Et on.
Yes!
Yes, comme voilà,
Yes!
exactement.
Yes!
Ça
Yes!
fait du bien, ça fait plaisir, ça termine sur ce Kevin Owens dominant, au-dessus d'un Roman Reigns complètement laminé. Voilà, Kevin Owens qui est enfin devenu dangereux. Donc je
Ouais,
suppose que ça
il
t'a
était
plu,
temps là
ce main
aussi.
event.
Ouais, alors en plus, pour revenir sur le match, il y a eu quelques séquences intéressantes. Moi, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien entre, bizarrement, j'aurais pas forcément parlé là-dessus, mais entre Rollins et Zayn. Il y a eu à un moment donné, notamment Rollins, les deux sont dans le ring. Rollins qui court et fait un crossbody à l'extérieur sur Jericho. Et Sami Zayn qui fait la même chose sur Strowman. Il y avait quelques séquences comme ça qui étaient assez dynamiques et spectaculaires entre les deux, avec les deux. Donc je trouvais que ça, la chimie passait plutôt bien, ce qui n'était pas forcément prévisible, hein, parce que les deux n'avaient jamais bossé ensemble dans la même équipe. Donc ok, ça marche bien.
On voit bien le talent de Sami Zayn hein, pour s'intégrer comme ça dans le main event, faire ce qu'il faut dans les matchs, et puis voilà, arriver à faire des petites interventions croisées comme ça avec Seth Rollins. On voit qu'il a le talent quand même pour être dans le main event. Hein.
Ouais, c'est ça. Quand il est arrivé sur le segment d'ouverture, il a tenu bon. Il était dans le ring avec des gens qui sont clairement dans plus haut dans la carte que lui, et il n'a pas démérité, il n'a pas paru faible, il n'a pas paru en retrait. Lors du segment backstage, la réunion d'équipe, il était fun. Et là, sur le match, il a, comme tu dis, porté le match pour une bonne partie, a montré des bonnes séquences. Donc, Sami Zayn, là, il a pris l'opportunité qui lui était donnée, comme on dit, et il en a fait bon usage. Donc, j'espère que ça a plu aussi à Vince, au Booker, à ceux qui décident et qui vont se dire, ah ouais, non, ok, Sami Zayn, il peut aussi sur la grosse scène et en main event donner des trucs vraiment bien et pas que contre Kevin Owens, hein, mais aussi dans d'autres contextes. Donc ça, c'était cool, c'était le bon point en termes de catch. Et sinon, après, oui, le finish, évidemment, puisqu'à un moment donné, on a l'impression qu'il va y avoir Rollins et Reigns qui vont refaire leur powerbomb du Shield encore une fois et content de voir Jericho arriver et finalement qu'ils essayent à un moment donné aussi d'ailleurs de nous faire croire qu'ils vont faire une parodie de la Shield Powerbomb through the table sur Reigns. Reigns s'en dégage, on se dit oh là là, ça va encore finir, Reigns et Rollins qui vont looker strong avec derrière les autres qui vont se faire écraser. Et donc là, surprenant comme tu dis, Owens qui finalement, ça y est, dans l'écriture, on lui donne cet angle plus menaçant. En même temps, il faut peut-être construire le re-EP, j'ai envie de dire, le redonner du danger pour que le match contre Reigns, alors que Jericho sera au-dessus du ring dans une putain de cage de requin, au secours, Alors ça, j'ai lu que c'était apparemment pour vendre des jouets. Ils ont vendu
Ouais, c'est
des
ça.
anciens jouets avec ça, et donc pour vendre le jouet, ben du coup il intègre à des matchs. Il avait fait à NXT il y a quelques mois. Ils le font là dans ce main event là. Donc c'est la stipulation un peu stupide de ce début d'année, mais au moins voilà, ils sont un peu dans l'obligation, j'ai envie de dire, pour que le match soit, qu'il y ait un enjeu, que ce soit disputé, qu'on se dise pas ok c'est plié d'avance, c'est Reigns qui va gagner. Et bien du coup ça les oblige un peu à dire bon ben la fin de ce Raw-là c'est Owens qui va looker strong, même si Reigns ne paraît pas faible pour autant, hein, parce que il y a eu un gros match, il s'est pris des quiches par Braun Strowman, il y a eu des coups de chaise, donc c'est pas comme s'il s'était fait écraser, donc ça ne démérite pas, ça n'affaiblit pas Roman Reigns, mais ça a tendance à plutôt redonner cette notion de danger pour Owens, qui le fait bien en plus, hein, cette gueule de grizzly québécois qui lui va bien. Donc oui, je suis content de ce finish-là, et de voir Reigns qui est écrasé à travers une table, Owens qui a son pied sur le torse, triomphant avec sa ceinture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et au moins ça rebat un peu les cartes. On se dit ah bah peut-être que il y aura plus match entre au Rumble que si on prenait les Raw de ces précédentes semaines où on se disait comment il va s'en sortir, parce que Reigns paraît inarrêtable.
Ouais, comme il l'a dit en début de show, personne ne peut me battre à l'heure actuelle, disait Roman Reigns.
Ouais. En un contrat,
En un
personne ne peut me
contrat,
battre.
personne ne peut me battre. Bah, c'est ce qu'on verra. Voilà, voilà le Rumble, on voit qu'il a quand même quelques cartouches, Kevin Owens. Et puis voilà, ouais, c'est clairement, ça fait plaisir de le voir dominant comme ça et finir ce Monday Night Raw là sur une note percutante. C'est bien ce que
Exactement.
ça a besoin, le show.
Ouais, surtout c'est fini, il y avait un silence, enfin il y avait plus de
Ouais, il n'y avait plus de
commentateurs
commentateurs,
qui étaient
c'était
dessus.
pas mal aussi sans
C'est
commentateur.
ouais, ça devait vraiment genre une espèce de choc, genre oh là là, the big dog imbattable se fait écraser. Et puis il y avait petit truc rigolo aussi, bah, le public. On entendait une partie du public, peut-être une moitié, qui était là en huant le heel, donc Kevin Owens, et l'autre qui faisait des yes à Daniel Bryan, contents eux aussi de voir que ben, Roman Reigns ne finit pas forcément toujours les shows victorieux et arrogant,
Voilà.
avec son huile à cheveux,
Voilà, il a
son
son
après-shampoing, comme ils disent, qui
après-shampoing.
dit Rikeo, qui lui dégouline de partout. Non, non. Il peut aussi finir écrasé à travers une table comme une merde, il n'y a pas
C'est
de raison.
ça. Plus de ceinture, écrasé comme une merde dans une table, voilà. Ça fait plaisir, même si on n'a rien contre Roman Reigns, hein, mais ça suffit, ça suffisait. Il était temps d'avoir ce Team Jericho là qui domine complètement le show. Bah écoute, on va passer au mot de la fin. On a fait le
Yes.
tour du main event. Ton top, ton flop, ta note.
Mon top, ça sera, j'en ai un petit peu parlé, donc je vais pas redévelopper, ça sera Sami Zayn, vraiment. J'ai trouvé qu'il a fait le boulot, il était excellent dans tous les segments où il a été présent, donc en opener, sur le match de fin et sur segment backstage avec Reigns et Rollins. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir que, vu la configuration, il fut propulsé dans le main event et il a assuré. Donc chapeau Samy, j'espère qu'encore une fois que ça va rester dans les esprits des bookers pour qu'il l'utilise à plus bon escient. Mon flop, ça sera quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je vais le faire en très rapidement. Triple H. On va croire que je m'acharne sur Triple H, mais là, il avait tweeté dans la semaine, le week-end dernier, suite au tournoi anglais. Quand il partait d'Angleterre, il avait tweeté en disant, là, ok, il va falloir que j'aille à Raw. Je m'envole pour aller à Raw. Il avait tweeté ça. Même Seth Rollins avait répondu à son tweet en disant, intéressant. Et donc moi, j'attendais, comme beaucoup, hein, le retour Triple H pour reprendre cette rivalité qu'au point mort depuis je ne sais pas combien de semaines, voire de mois. Hein, donc on envisage un match WrestleMania, Seth Rollins, Triple H. Parce que Seth Rollins veut se venger de la trahison, on va dire, entre guillemets, Triple H, lorsqu'il a mis un pedigree et il a offert la ceinture universelle à Kevin Owens. Il n'y a rien eu depuis cette rivalité, à part Seth Rollins qui dit, oui, je veux Triple H, je veux Triple H. Là, on nous a teasé sur Internet, sur les comptes officiels, donc Triple H, WWE, comme quoi Triple H allait à Raw. Eh ben, on l'a pas vu à Raw. Donc, du coup, là, occasion manquée, je comprends pas,
Il y a
enfin,
neigé,
c'est,
sûrement. Sûrement était coincé à l'aéroport.
Peut-être, va savoir. Malheureusement, je pense pas.
Non, bah non.
Non, non. Bah, donc voilà, carton rouge là-dessus, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, bah, Rollins, s'il arrive, il a rien à dire, parce que bah, sa rivalité, c'est que celle-ci. Et bah, tant qu'il n'y a pas Triple H qui va soit donner une interview backstage, soit arriver sur un Raw, bah, il se passe rien, quoi. Et c'est dommage, dommage, vu le talent de Rollins, de le faire languir et nous faire languir aussi autant de temps.
Tu sais, c'est quand le Super Bowl, toi? Aurait pu tarder, ça, non?
Non, ouais,
Parce que
c'est dans pas
théoriquement, Triple
longtemps,
H y
c'est en
revient
octobre.
après le Super Bowl.
Ah bon, pourquoi? Ça suggère d'où?
Ça, c'est le vieille technique de Hulk Hogan, parce que les ratings sont bas quand t'as le football qui bat son plein. Donc, tu reviens
Ah.
après le Super Bowl, comme ça, tu dis, regardez,
Eh bien,
les ratings remontent quand
ouais.
je reviens.
Le
Les
Super Bowl,
techniques.
c'est le 5 février.
Ok.
Donc ça sera quoi? Ça sera le Raw après le Rumble, je crois.
Voilà. Donc, il y a de fortes
Donc
chances qu'on ne
oui,
le revoie
pourquoi
pas
pas.
d'ici là.
Pourquoi pas, ça peut être un bon moment après le Rumble, Triple H qui revient,
Voilà.
Rognat. Sachant que
C'est ma.
tu as dit aussi dans un segment qu'il y a il y aura Goldberg la semaine prochaine aussi à Raw,
Ouais, ah
qui
oui, c'est
viendra.
vrai. Goldberg la semaine prochaine. C'est de moins en moins banal, donc ça fait de moins en moins d'effet. Mais peut-être qu'ils vont nous sortir un truc spécial, hein, on sait pas.
Ouais. Et la note, eh ben, je mettrai un 4. Je vais faire une giscalite, je vais mettre un
Oh,
4.
jamais moins
Ouais.
de 4. Bah écoute, tu es bien généreux.
Voilà. Oui, bah parce qu'en fait, j'ai pas de... Le seul segment qui m'a emmerdé, c'était autour de Cédric Alexander et autour de Titus O'Neil. Mais sinon, le reste, je trouve qu'il y avait des trucs bien. Voilà, le segment d'ouverture marchait bien. Le tag team match était cool avec cette victoire qu'on a cru au changement de titre et finalement non, ça a bien marché. Le segment des nanas, les deux segments de nanas marchaient bien avec Nia Jax, Sasha Banks et cette petite vidéo originale et le segment avec Bayley et Charlotte. Le main event était franchement plus que correct. Il y a eu des bonnes surprises. Ça finit sur une note qui casse la dynamique qui était franchement pénible semaine après semaine du main event. Donc non, ouais, moi je l'ai regardé avec plaisir finalement. J'ai pas senti le temps trop long et ça faisait, j'ai envie de dire que par rapport à tous les Raw qu'on se tape depuis quelques semaines, celui-ci clairement ressort comme étant un épisode tout à fait bah, plaisant, ce qui est pas toujours le cas. Donc voilà, je sanctionne, mais au positif, donc je mettrai un 4.
Ok. Un bon 4. Bah moi, je vais mettre mon flop sur les cruisers. Le temps des matchs des cruisers, c'est beaucoup trop court pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit.
Ouais, c'est vrai.
Donc, à la limite, au lieu de faire 3 matchs, autant en faire 2 et puis qu'ils soient un peu plus longs. Mais en tout cas, tant qu'ils feront des matchs aussi courts, bah, il ne pourra rien se passer pour les cruisers, hein, malheureusement. Mais bon, c'est un peu toutes les semaines hein, qu'on met un peu le flop au cruiser, mais c'est pas grave. Et puis le top, alors moi je serais bien tenté de mettre Sami Zayn aussi. Mais bon, du coup, je vais mettre le finish du main event avec ce Kevin Owens qui domine complètement Roman Reigns, qui est enfin monstrueux. Je vais mettre un 4 aussi comme toi. Allez, soyons généreux, soyons
Oh,
fous.
ok.
C'est pas parce qu'on est en petite forme en début de semaine qu'il faut être grincheux. Voilà, donc un bon 4 pour ce Monday Night Raw du 16 janvier 2017. Voilà, donc il reste encore un show avant le Royal Rumble, hein, parce qu'on s'était
Ouais.
trompé la semaine dernière, on avait dit qu'il restait qu'une semaine, mais en fait il en restait deux. Donc passons à l'auto-promo. Hein. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur iTunes, sur PodCloud, sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch. Pensez à vous abonner, on a franchi la barre des 100 abonnés.
Wouhou!
Wouhou, champagne.
Toulou!
Voilà, merci beaucoup hein, de nous écouter, de nous soutenir. Venez vous inscrire sur les cahiers du catch, hein, venez discuter avec nous sur le forum. Il y a plein d'articles qui sont tombés là sur les rétros de l'année dans tous les sens. Voilà, on espère que vous vous êtes bien amusés à nous écouter. Vous avez le supplément qui va sortir là d'ici quelques jours. Si vous êtes abonné, vous aurez tout de suite l'info. Si vous l'êtes pas, bah, il est temps de vous abonner.
Oui, et on a aussi la page Facebook, hein, donc Catch Up CDC sur Facebook pour nous retrouver, ne manquer aucune publication de nos podcasts.
Exactement. Exactement. Allez regarder le tournoi UK Championship sur le. Vous voulez WWE Network, pardon, c'est encore très bien exécuté. Tout le barnum de la WWE au service des petits catcheurs indépendants anglais qui ont pas mal de talent. Voilà, plutôt une belle réussite. Mon cher amiral, merci d'être venu, merci beaucoup.
Mais de rien, mon cher Inks, un plaisir comme toujours et merci à vous tous.
Plaisir partagé. Eh bien écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine de catch. Ciao, ciao les amis.
À bientôt. Salut. Pourtant, j'ai trouvé pas mal, franchement.
Ouais, il y avait de la bagarre. C'est ça qui était
Il y
cool.
avait la
Il y
baston.
avait de la baston.
Et
Ça fait
oui.
avancer.